Il est 6h.
Et l'Oscar est décerné à
Christopher Hampton, and
Christopher Hampton et Florian Zeller.
Le prix du meilleur scénario adapté décerné au français Florian Zeller pour son premier long métrage. La star du film Anthony Hopkins reçoit pour sa part l'Oscar du meilleur acteur. Dans ce journal, les élèves de maternelle et primaire reprennent le chemin des classes aujourd'hui avec un protocole sanitaire renforcé. L'hommage à la policière assassinée à Rambouillet vendredi dernier. Plusieurs rassemblements sont prévus dans les commissariats ce soir. Et puis les plus gros pollueurs du monde dans le viseur du MI6. Les services secrets britanniques se lancent dans une opération espionnage vert.
À suivre le journal des sports de Julien Froment et mon invité inattendu pour un projet qui l'est tout autant. Envoyer des graines pour faire pousser des fleurs dans la Station Spatiale Internationale. Un cadeau olfactif pour maintenir le lien avec la Terre à l'attention de Thomas Pesquet. C'est à 6h20 tout à l'heure. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est pas à Hollywood, mais dans la gare de Union Station à Los Angeles qu'a été déroulé le tapis rouge la nuit dernière pour la cérémonie des Oscars en pleine pandémie. Et c'est le réalisateur Florian Zeller, le réalisateur français Florian Zeller, qui remporte le prix du meilleur scénario adapté pour The Father, adaptation d'une de ses pièces. Anthony Hopkins, rôle principal et sacré meilleur acteur. Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Californie. La France est doublement récompensée puisqu'il y a aussi Colette, le documentaire sur le frère résistant d'une retraitée normande qui remporte l'Oscar du meilleur film documentaire court.
Cette 93e cérémonie des Academy Awards aura donc porté chance à l'héroïne de Colette, Madame Colette Marin-Catherine, qui fête aujourd'hui son 93e anniversaire dans son HLM de Caen en Normandie. Mais cet événement planétaire a cette année un goût particulier et un ton moins glamour que par le passé. Pratiquement pas de tapis rouge, un invité pour chaque nominé, pas de dîner de gala à 1 800 $ par personne et surtout 6 endroits différents sur la planète, dont la gare centrale de Los Angeles, censée représenter le redémarrage de l'industrie du 7e art. Mais la crise Covid est bien passée par là. Près de 300 cinémas de la ville ont définitivement fermé leurs portes et ce sont les géants du streaming, Hulu, Netflix et Amazon, qui se sont partagés l'essentiel des 23 statuettes distribuées ici ce soir. De quoi inquiéter tous les professionnels du secteur qui regardent avec angoisse les chiffres de reprise dans les salles. L'Académie du cinéma cherche à se réinventer depuis près de 10 ans. Elle sait qu'elle doit faire plus de place aux minorités et rajeunir son audience sans délai, au risque d'être emporté par la mondialisation des images.
Benoît Clerc en ligne de Los Angeles pour Europe 1. Et puis un troisième Français également récompensé, il s'appelle Nicolas Becker, Oscar du meilleur son pour le film Sound of Metal, un film sur un batteur de heavy metal qui a perdu l'audition.
Et puis Nomadland rafle la mise également. Sa réalisatrice Chloé Zhao reçoit l'Oscar du meilleur long métrage, celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand.
À la une également ce matin, Sophie Eschen, la première étape du déconfinement avec la rentrée après 3 semaines de vacances scolaires.
Et retour à l'école pour les élèves de maternelle et de primaire pour l'instant. Les collégiens et lycéens continuent les cours à distance cette semaine. Et Virginie Riva, l'Éducation nationale a prévu un protocole sanitaire strict.
Oui, avec le retour à la règle 1 cas égale une classe fermée. Aussi, pour éviter un maximum les contaminations, l'aération est recommandée toutes les heures. Les classes en plein air sont encouragées. Le maillon faible, ce sont les cantines qui restent ouvertes, avec un espacement de 2 mètres désormais exigé entre les élèves. La question en suspens, c'est que faire des enfants lorsque leur enseignant est malade? Auparavant, ils étaient dispatchés dans d'autres classes. L'idée, c'est de l'éviter le plus possible grâce au recrutement. À côté de toutes ces mesures, le gouvernement sur les tests. Dès aujourd'hui, les enseignants et les aides maternelles vont en recevoir 2 par semaine gratuitement. Ils sont en train d'être acheminés ce matin dans toutes les écoles. Des autotests à réaliser ensuite chez eux et le nombre de tests salivaires réalisés à l'école pour les élèves est censé doubler d'ici à 15 jours.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Et puis situation très critique en Inde avec près de 350 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. L'Union européenne et les États-Unis vont envoyer de l'aide sur place. La France notamment va fournir des respirateurs.
Et nous serons en Inde à 7h05 pour la revue de presse internationale avec notre correspondant Combastin qui nous attend. 6h05 sur Europe 1, plus de 25 000 personnes se sont rassemblées hier dans toute la France pour réclamer justice pour Sarah Halimi.
Et pour contester l'absence de procès après le meurtre de cette sexagénaire à Paris, c'était il y a 4 ans. Hier, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a annoncé une nouvelle loi pour combler le vide législatif apparu dans l'affaire. De son côté, le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'institution judiciaire doit pouvoir continuer de juger à l'abri des pressions. Résultat, les syndicats de magistrats s'unissent derrière le Conseil. Diane Berger.
Le procès de Viry Châtillon, l'arrêt de la Cour de cassation sur l'affaire Sarah Halimi, il y a quelques mois, c'était aussi la condamnation de Nicolas Sarkozy. Ces décisions de justice attirent à chaque fois des pluies de critiques, déplore Sophie Legrand, secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
Là où c'est inquiétant, c'est que ces critiques qui sont formulées contre la justice, elles tendent à l'être de plus en plus par des parlementaires, des membres du gouvernement. Et donc on est vraiment sur une atteinte aussi à la séparation des pouvoirs.
Non seulement les attaques se multiplient, mais en plus, regrette-t-elle, le garde des Sceaux vient rarement défendre la justice. Un constat partagé par Ludovic Fria, le secrétaire général de l'Union syndicale de la magistrature.
Si on arrive à remettre en question systématiquement les décisions de justice, par voie de presse, on n'en finira jamais et à chaque affaire, on va être amené à faire évoluer la loi.
Et il s'inquiète déjà des potentiels effets de la future loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui prévoit d'autoriser les audiences filmées. Cela risque, selon lui, d'encore plus exposer les magistrats aux pressions de l'opinion publique.
Les suites de l'enquête après l'attaque au commissariat de Rambouillet dans les Yvelines vendredi, une cinquième personne a été placée en garde à vue. Ce soir, les syndicats de police appellent à des rassemblements en hommage à l'agente administrative assassinée. Pour Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat SGP Police, il y a nécessité à faire front contre la menace terroriste.
C'est avant tout symbolique, c'est très important de se recueillir déjà, premièrement, montrer qu'au-delà des différents métiers de la police nationale, qu'on soit administratif, technique, scientifique, actif, en préfecture, policiers municipaux, gendarmes, enfin bref, tout ce qui fait la grande famille des forces de l'ordre ou les personnels de soutien, finalement, on voit bien qu'on est malheureusement la cible sans distinction de terroristes. C'est un moment de recueillement, c'est un moment de partage, c'est un moment où on doit être unis et c'est un moment où on doit montrer qu'on est encore debout.
Un des propos recueillis par Marion Dubreuil. Et mercredi, Gérald Darmanin doit présenter un projet de loi en Conseil des ministres pour renforcer la lutte contre le terrorisme. À l'étranger, le sous-marin disparu au large de Bali la semaine dernière a été retrouvé par la marine indonésienne, brisé en trois parties. Aucun des 53 membres de l'équipage n'a survécu.
Et puis le MI6, les services secrets britanniques, se lancent, Sophie Eschen, dans l'espionnage vert.
Oui, Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. En fait, ça consiste à vérifier que les pays respectent bien leurs engagements en matière de protection de l'environnement.
Oui, dans le domaine du changement climatique où tout le monde doit s'engager et jouer franc jeu, nous devons vérifier que c'est bien le cas. Ce sont les mots de Richard Moore à la radio britannique, premier chef du MI6 à s'exprimer dans une interview diffusée. Il a qualifié le changement climatique de priorité de l'agenda de politique étrangère pour le Royaume-Uni et la planète. Voilà pourquoi l'espionnage vert est une nouvelle mission des services secrets. Et dans le viseur des espions britanniques, la Chine. C'est ce qu'a laissé entendre Richard Moore en soulignant que Pékin était le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Mais le chef des services secrets est resté discret sur les méthodes employées. À la question « Des agents vont-ils se cacher dans des champs pour mesurer les émissions des usines ?» il a botté en touche. Une interview qui n'arrive pas par hasard. En novembre prochain, le Royaume-Uni accueillera la COP26 sur le climat à Glasgow. En amont de ce sommet, Boris Johnson a fixé des objectifs très ambitieux de réduction des émissions de CO2.
On attend quand même de les voir cachés dans les épis de maïs, les agents, les James Bond britanniques. C'est assez édifiant.
Et de trois pour l'hélicoptère Ingenuity, l'appareil envoyé sur Mars par la NASA a effectué hier son troisième vol, plus long et plus rapide que les deux précédents. L'engin a parcouru 50 mètres en 80 secondes avec une pointe à 7 km/h. Prouesse filmée par le robot Perseverance. Les images arriveront bientôt chez nous.
Merci, c'était le journal de Sophie Eschen. Il est 6h09. Et le retour de Julien Froment, la 34e journée de Ligue 1. Julien a vu le leader Lille maintenir le cap.
Ouais, exactement, après une victoire de prestige arrachée sur la pelouse de Lyon, 3-2 grâce à son attaquant turc Burak Yılmaz. Deux buts, une passe décisive. Au classement, les Lillois écartent leur adversaire du soir, Lyon, de la course au titre et comptent désormais 2 points d'avance sur Monaco et 1 point sur le Paris Saint-Germain. Le tout à 4 journées de la fin. L'entraîneur des Docks, Christophe Galtier, assume enfin, oui, Lille est candidat au titre.
Maintenant, c'est un objectif, bien évidemment. On ne peut pas se cacher. Là, on est à 4 journées de la fin et on est premier. Donc, on va devoir être performant, s'arracher sur tous les ballons, sur tous les matchs qui vont arriver pour arracher des victoires et tenir jusqu'au bout. Après, si on n'y arrive pas, ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne sera pas spécialement une grande déception. On aura peut-être rêvé. J'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve.
C'est beau de rêver, Christophe Galtier, avec Jean-François Pérez. Si la bataille fait rage en haut du classement, on connaît hélas déjà un club qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Il s'agit de Dijon, écrasé hier sur la pelouse de Rennes, 5-1. Bordeaux, de son côté, lâché cette semaine par son actionnaire américain, va très mal. Défaite 4-1 contre Lorient. C'est le cinquième revers d'affilée pour les Girondins qui ne sont pas encore assurés du maintien.
Dans l'actualité sportive ce week-end également, Julien, du cyclisme et la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège où les Français ont brillé.
Oui, on a cru que la malédiction allait être rompue, qu'un tricolore allait enfin succédé à Bernard Hinault 41 ans après, mais le précoce et talentueux Tadej Pogacar en a décidé autrement. Le Slovène devient le plus jeune vainqueur de la doyenne des classiques en devançant au sprint d'un boyau de roue Julien Alaphilippe. Fair play à l'issue de la course.
Dans ce genre de sprint, si on se laisse un peu décrocher avec l'effet d'aspiration et la puissance, et il était très, très puissant, on peut prendre beaucoup plus de vitesse que les mecs qui lancent le sprint de devant. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Voilà, c'est pour ça que je me suis retourné quelques fois. Je savais qu'il allait tenter ce coup-là. Mais il faut encore pouvoir le faire et il a su le faire. Donc chapeau. C'est comme ça. C'est super d'être sur le podium d'un monument. Mais c'est vrai que c'est une course que je rêve de gagner. Donc ça, c'est pas encore pour cette année.
Julien Alaphilippe avec Axel May. Alaph accompagné par David Gaudu. Surprenant troisième, son premier podium dans une grande classique. Deux Français sur la boîte à Liège-Bastogne-Liège.
C'est
bon. Ce n'était plus arrivé depuis 1953. On se console comme on peut.
Exactement. Dans le reste de l'actualité, enfin, Julien, du tennis, de la gymnastique et de la Formule 1.
On a commencé par le tennis. Les favoris pour Roland-Garros répondent présents à moins d'un mois du début du tournoi. Victoire de Rafael Nadal à Barcelone face au grec Stefanos Tsitsipas. Les deux hommes ont livré une superbe bataille de plus de 3h30 en finale, mais le Mallorquin, après le couac de Monte Carlo, a bien montré qu'il était le patron sur terre battue. 12e titre en Catalogne et succès en 3-7, 6-4, 6-7, 7-5. En gymnastique, à 3 mois des Jeux de Tokyo, la Française Mélanie De Jésus, 21 ans, a été sacrée championne d'Europe à la poutre. C'est son 4e titre continental. Enfin, Grand Prix de Formule 1, peut-être avec du public le 23 mai prochain. Les organisateurs y croient. Selon Stefano Domenicali, PDG de la F1, eh bien, la course la plus prestigieuse du circuit
pourrait
accueillir des spectateurs. Reste à connaître la jauge. Les autorités monégasques qui ont annoncé eh bien, quelques jours un assouplissement des mesures planchent sur plusieurs scénarios avec une jauge allant de 30 à 50%.
On suivra ça. Merci beaucoup Julien Froment.
Europe 1.
À 6h12 sur Europe 1, Thomas Pesquet est bien arrivé sur la Station Spatiale Internationale ce week-end. On s'était quitté lundi avec le décollage de sa capsule SpaceX. On se retrouve ce matin avec un objet insolite qui va bientôt le rejoindre tout là-haut. Une plante dans l'ISS. C'est un projet porté par mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour, c'est FTC.
Bienvenue sur Europe 1, FTC. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante en biologie végétale à Toulouse et vous avez cofondé le projet Éclos qui va permettre l'envoi de graines cet été à bord de l'ISS pour voir comment une fleur va pousser dans l'espace. Vous nous racontez ça dans quelques secondes. A tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Mon invité inattendu ce matin est donc la cofondatrice du projet Éclos qui va permettre l'envoi de graines dans la Station Spatiale Internationale pour une expérience cet été. Déjà, expliquez-nous, FTC, comment est né ce projet ?
Ce projet, il est né d'un appel d'offres qui a été fait par le CNES en 2019.
Donc le Centre National d'Études Spatiales.
Cet appel d'offres, il avait pour but de promouvoir l'espace pour les jeunes. Il invitait les étudiants de l'enseignement supérieur à proposer des projets qui seraient envoyés dans l'espace avec Thomas Pesquet lors de sa prochaine mission. Mmh. Et donc, en 2019, j'ai fait un dossier pour participer à ce projet fou et je l'ai remporté avec mes collègues qui sont désormais membres de l'association Éclos et avec lesquels on fait le projet Éclos.
Alors, ces graines, elles vont partir le 1er août exactement dans un cargo de ravitaillement. C'est quoi comme graines exactement ?
Alors, ce sont des graines d'œillets d'Inde. Qui ont été fournis, enfin que l'on a acheté chez le semencier Caillard.
Ouais, donc et des fleurs rouges orangées, hein, je crois.
C'est ça, exactement. Ce sont des œillets d'Inde nain. Donc elles sont petites, elles font une vingtaine de centimètres une fois qu'elles ont fait leurs fleurs.
Ouais.
Et elles ont été sélectionnées parce qu'elles étaient très faciles à désinfecter pour ne pas amener de pathogènes dans l'espace. Mmh. Elles résistaient très bien aux températures de l'ISS et elles n'avaient pas un gros besoin en eau.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné ces fleurs.
Et justement, comment elle vous est venue cette idée parmi tous les projets possibles pour envoyer des choses dans l'espace ? Pourquoi est-ce que vous avez pensé à des graines, à une fleur ?
Alors, à l'origine, moi, je suis quand même en biologie végétale. Donc c'est vrai qu'avoir un projet qui travaillait sur le végétal, c'est ce qui m'animait. Et après, moi, donc, du coup, j'avais un projet qui portait sur la rose du Petit Prince au tout départ. Donc, je voulais envoyer une rose dans l'espace. C'était plus une symbolique qui me plaisait. Amener du beau dans l'espace, ça me parlait. Et les étudiants de Nantes avec lesquels j'ai dû fusionner pour créer le projet Éclos, eux, ils voulaient envoyer une tulipe, ce qui n'était pas possible. pour des raisons sanitaires. Mmh. Et le mix de nos idées ont donné une fleur qui allait pousser dans l'espace. Et du coup, cette envie de travailler autour du végétal, c'est ce qui nous a animés.
Et alors, outre le fait d'envoyer du beau dans la Station Spatiale Internationale, idée que je trouve très romantique, quel va être vraiment le but de cette expérience avec les œillets d'Inde?
Alors, le but de cette expérience, c'est de donner un peu de plaisir à Thomas parce que on est un projet étudiant, donc on ne correspond pas aux critères d'une expérience scientifique à proprement parler pour le CNES. Donc on a fait quelque chose de plutôt lié au bien-être de l'astronaute et à l'envie qu'au milieu de toutes ces expériences qu'il va devoir faire et toute cette recherche qu'il doit mener là-haut, il ait un peu de détente, un peu de joie, un peu d'envie de peut-être de jardiner et de s'occuper de sa fleur, de l'avoir poussée et de penser à la Terre, d'avoir ce lien avec la Terre qui soit assez fort. Et d'amener un peu de végétal et de beauté.
Garder le lien avec la Terre. Alors oui, il y a déjà une sorte de jardinerie, hein, je crois, dans l'ISS, où on a fait pousser des salades, des fleurs aussi en expérience ponctuelle. Là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner? À quoi ressemble le contenant déjà? Cette fleur, elle ne part pas dans un petit pot classique comme on en trouve dans les magasins?
C'est exact. On a designé toute une capsule qui est adaptée pour notre fleur. Donc ça ressemble à un tube en plastique.
D'une quarantaine de centimètres de haut, c'est ça?
Exactement, une hauteur de 45 cm, un gros diamètre, on est aux 18 cm de diamètre, donc c'est un beau pot. Et il est composé de plusieurs étages, donc tout en bas, il y a une bague qui est rotative. Et à chaque fois que Thomas va tourner la bague, il va récupérer un carton. Et dans ce carton, il y a des odeurs de fleurs qu'il va pouvoir sentir et découvrir toutes les semaines, toutes les deux semaines, quand il en aura envie. Qui sont accompagnés de mots de sa famille, qui ont écrit des petits mots pour renforcer ce lien avec la Terre notamment. Ensuite, il y a toute la partie où les graines vont pouvoir pousser, donc les racines des plantes vont pouvoir s'expandre. Et la partie transparente où on va pouvoir voir la plante.
Comment est-ce qu'il va les arroser, ces graines, puisqu'on sait que l'eau, elle se manifeste sous forme de petites bulles qui flottent quand on est en apesanteur?
C'est exact. Donc, on a prévu une petite valve. Donc, il y a un petit trou dans le pot de terre qui est protégé, bien sûr. La terre ne va pas s'échapper par là. Et grâce à un drinking bag, ce sont des petites poches en plastique qu'il remplit d'eau. Et il a un petit connecteur qui va permettre de faire la liaison entre cette poche d'eau et notre capsule. Et il aura juste à presser la poche pour que l'eau aille dans la terre de notre côté.
D'accord. Bon, Thomas Pesquet va pouvoir la voir, la sentir, cette plante. Et puis dans la capsule, il y aura aussi, vous le disiez, des échantillons odorants. Ça a l'air tout simple comme ça de dire qu'on va envoyer des graines dans l'espace. En réalité, ça vous a demandé 2 ans de travail à votre équipe. Vous êtes 12 étudiants, je crois. Il a fallu faire tout un tas de vérifications et de développement.
Oui, c'est ça. On est 12. Donc au début, on était 6 qui ont travaillé sur le dur. Donc c'est sur toute la capsule, la sélection des plantes, la création de la capsule, l'idéation, toute la partie électronique pour éclairer bien sûr la plante qui a besoin de lumière. Donc ça a été très long parce qu'on a eu des grandes phases avec forcément des soucis parce que c'est un projet. Il y a eu beaucoup d'étapes de sécurité à passer avec l'Agence spatiale européenne. Parce qu'il devait vérifier que le projet n'allait pas être dangereux.
Justement, comment on vérifie qu'une plante n'est pas dangereuse?
Alors, pour la plante, c'est plutôt simple, finalement, parce que les graines, elles sont désinfectées. Donc, elles ne présentent pas de risque potentiel. Et ensuite, elles sont enfermées dans notre capsule. Donc, normalement, elles ne s'échappent pas. Et ensuite, la partie pour assurer la sécurité des graines, c'est le fait d'attester que ce sont des graines qui sont non OGM et pas dangereuses pour l'environnement. Et ça, grâce au semencier Caillard, notamment, qui nous a fourni des certificats pour le prouver. On n'a pas eu de soucis au niveau des graines.
D'accord. Bon, départ le 1er août, comment est-ce que vous serez tenu au courant des avancées, de l'expérience, de la poussée de cet œillet d'Inde?
Alors nous, on a demandé dans le protocole de l'expérience d'avoir des photos toutes les deux semaines de la part de Thomas qui nous envoie un suivi de notre plante. Et on espère qu'on aura des petites nouvelles avec des photos surprises, si c'est possible, si le projet lui plaît. On espère qu'il nous donnera des nouvelles plus souvent que ça. Mais on aura au moins des photos assez régulièrement.
On sait qu'il est adepte de la photo, vous aurez peut-être des rendez-vous en visio. On pourra en tout cas suivre l'avancée des choses, nous aussi, et la pousse de cette jolie fleur sur le compte Instagram de l'expérience que je vais redonner, eclo.space, eclo.space, sur le réseau social Instagram. Merci beaucoup. FTCA d'être venu nous en parler ce matin. Merci d'avoir été l'invité inattendu.
Merci à vous.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Et à 6h20, l'essentiel de l'actualité ce matin, le français Florian Zeller remporte l'Oscar du meilleur scénario pour The Father, son premier long métrage tiré d'une de ses pièces de théâtre. Chloé Zhao est de son côté sacrée meilleure réalisatrice pour le film Nomadland. Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées hier à Paris pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Elle conteste l'absence de procès après le meurtre de cette sexagénaire juive il y a 4 ans. Retour à l'école pour 6 millions d'élèves de maternelle et primaire ce matin avec un protocole sanitaire renforcé. Emmanuel Macron sera dans une école de Melun ce matin pour rencontrer les enfants et les professeurs. Et puis plus de 80 morts et 110 blessés en Irak après l'incendie d'un hôpital de Bagdad suite à l'explosion de bouteilles d'oxygène. Un drame qui serait lié à des négligences. Le ministre de la Santé irakien a été suspendu.
Europe 1.
Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde.
Votre 5-7 se poursuit en musique, vous l'avez compris. Renaud dans la partition d'Amblin Roche, c'est dans quelques secondes.
Europe 1.
Et il est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. À présent, l'histoire cachée derrière une chanson, un concert, un artiste. Son œuvre est entrée il y a bien longtemps maintenant au patrimoine de la chanson française. Un langage simple, imagé, rigolo, émouvant parfois. Oui. Vous nous parlez ce matin, Omblin, de Renaud.
Renaud, le révolté, Théo, le poète. Renaud, l'amoureux de l'enfance. Et comme le titrait Le Monde en mars 1979, Renaud, le loubar, un parigo qui dit des gros mots. Et en cette fin de décennie 70, il laisse béton la casquette de Gavroche pour un bandana rouge au-dessus d'un blouson noir.
Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé.
Avec trois albums, le succès est arrivé petit à petit et Renaud s'invente un nouveau personnage.
À qui il ne vaut mieux pas chercher des noises. Sur la pochette de Marche à l'ombre, son visage devant une vitre cassée n'est pas vraiment souriant.
Et l'album entier est d'ailleurs dédié à un individu assez peu recommandable.
Paul Toul, derrière ce nom se cache en réalité l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, tué par la police quelques mois avant que Renaud ne s'installe au studio Ramsès à Paris pour l'enregistrement de ses nouvelles chansons.
It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you.
Après avoir reproduit les codes vestimentaires des voyous des quartiers, Renaud devient, Amblin, un exemple à suivre.
Un perfecto et des Santiago assortis à sa gouaille. Il mêle argot et calembour, formule poétique et figure de style. Il titille la bien-pensance, invente une poésie urbaine. À propos du titre dans mon HLM, l'économiste Jacques Attali disait à l'époque qu'il valait mieux se plonger dans les textes de Renaud que dans les analyses de trois sociologues réunis.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son beretta, traque les mots qui chouravent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con.
La formidable galerie de portraits dans laquelle on fait aussi la connaissance d'un certain Gérard Lambert.
Un anti-héros drôle et pathétique, une petite frappe à mobilette inspirée du comédien Gérard Lanvin. Il a dû être ravi. Ouais. Renaud va lui piquer sa femme, tombée fou amoureux de Dominique. Elle deviendra sa gonzesse et par rancunier pour deux sous, Gérard Lanvin sera plus tard aux côtés de Michel Blanc dans le film nommé en hommage au disque et à Renaud, Marche à l'ombre.
Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, reluc la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les nibards. Collant léopard homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain dans Sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais S3 au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. des marches à l'ombre. Un petit rôti bargeot, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qu'avait fait-il, arrête, j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? La carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
Elle pourrait servir de lexique de l'argot des années 70-80. L'argot pour les nuls, grâce à Renaud.
Oui, cette chanson marche à l'ombre, comme l'album qui est sorti en 1980.
Merci Ombline. On va marcher à l'ombre des nuages et de la pluie aujourd'hui, Laurent Cabrol.
Ouais, moi je suis en train de penser que beaucoup de ceux qui ont du soleil encore et qui travaillent la terre doivent dire à ce soleil, toi tu me fous les glandes parce qu'ils en ont marre de ce soleil en permanence. C'est quand même malheureux, hein, on le cherche, on le guette, on le veut, puis là maintenant on en a trop. Voilà, alors donc il pleut, mais il ne pleut pas beaucoup pour l'instant et les pluies vont concerner le littoral méditerranéen, la vallée du Rhône, le sud-ouest où elles arrivent tout doucement, la région Rhône-Alpes sont quand même un petit peu là, l'Auvergne et le Limousin, donc le Massif central. Et puis des averses, nous en aurons, nous en avons déjà un petit peu sur le Poitou-Charentes, le Limousin. Vous voyez que donc une partie sud de la France, vous avez compris que je parle essentiellement de la partie sud.
Il vaut mieux être au nord aujourd'hui.
Oui, enfin ça dépend de ce qu'on cherche. La partie sud sera sous la pluie et si vous n'êtes pas ni agriculteur ni jardinier, ben, vous avez envie du soleil, et bien sur la moitié nord, il y aura du soleil et le soleil sera plus rayonnant encore sur la Picardie, le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Il sera présent sur Paris, sur la Normandie, une bonne partie de la journée. Après, le ciel va se voiler. Il va se voiler aussi sur la Bretagne et la Bourgogne. Bon, les températures, tenez, avant de sortir. 6 en banlieue parisienne, je suis fou. 9 à Tours, 10 à Besançon, 12 à Beauvais en ce moment. Hein. 13 à Marseille et 15 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, entre 15 et... Allez, Théo, un chiffre.
20, 21 ?
Pas mal. C'est bien ça, entre 15 et 20 degrés.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Lundi 26 avril, très bon réveil, un nouveau journal. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Il est 6h30.
Il ne s'agit pas d'une bouffée délirante, mais bien d'un crime antisémite et islamiste. Quel que soit leur parcours, il n'y a aucune excuse à cela, ils font un choix conscient.
Comme cette femme, plus de 25 000 personnes hier ont manifesté partout en France pour exprimer indignation et colère après que le meurtrier de Sarah Halimi a été jugé irresponsable de ses actes. Confirmation de ce jugement. Au-delà du cas particulier, c'est tout un débat de société qui est relancé. Rentrée scolaire pour près de 7 millions d'élèves en primaire et maternelle, en présentiel. Et pour les collégiens et lycéens, ce sera à distance en espérant éviter les bugs informatiques. Et puis le championnat de France de Ligue 1, toujours aussi passionnant. Hier, Lille a renversé Lyon 3-2 et repris la tête du classement devant le PSG.
Juste après ce journal, un nouvel accord pour encadrer vraiment le télétravail. La ministre Elisabeth Borne réunit les partenaires sociaux aujourd'hui. Et il y a urgence à mettre un cadre, viendra nous dire Jean-Claude Delgène, directeur général du cabinet Technologia. Jusqu'à 7h comme tous les jours, l'innovation et votre revue de presse internationale. Très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus de 25 000 personnes ont manifesté hier en France pour exprimer leur colère après que le meurtrier de Sarah Halimi a été jugé irresponsable pénalement. Un jugement confirmé ce mois-ci. Les magistrats ont validé le fait qu'il était en proie à une bouffée délirante après la prise de stupéfiants, tout en confirmant la nature antisémite de son acte. Caroline Baudry s'est rendue au Rassemblement parisien pour Europe 1.
Le slogan est repris par une foule compacte face à la Tour Eiffel. Justice pour Sarah Halimi, juge, où est votre honneur ? Peut-on lire sur les pancartes et stickers de Sylvie et Myriam.
La justice avant tout.
Il ne s'agit pas d'une bouffée délirante, mais bien d'un crime antisémite et islamiste. Quel que soit leur parcours, il n'y a aucune excuse à cela, ils font un choix conscient.
C'est pas parce qu'on a fumé un joint qu'on exclut d'être jugé.
Une décision de justice choquante pour ces manifestantes. Au-dessus d'elle, sur un écran géant, des vidéos de soutien d'artistes, de personnalités politiques défilent. Beaucoup ont fait le déplacement, comme l'imam Chalgoumi, accueilli sous les applaudissements.
Il faut réclamer cette justice pour que la société humaine soit en paix. Sarah Halimi, c'est un crime qu'on ne peut pas l'accepter. Face à quelqu'un, un barbare. Pour moi, c'est un barbare.
Que vive la France.
À la tribune, des représentants de cultes catholiques, des élus et la famille de Sarah Halimi ont aussi pris la parole, tous réunis pour exprimer leur émotion et leur sidération.
Caroline Baudry.
Et voilà donc l'épineux débat sur l'irresponsabilité pénale ouvert. Jusqu'où est-on responsable de ces actes ?
Marion Dubreuil, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti s'est engagé à présenter fin mai un projet de loi pour modifier les conditions dans lesquelles l'irresponsabilité pénale peut être retenue.
Oui, l'enjeu de ce débat, c'est de savoir s'il faut ou non distinguer les différentes causes d'un trouble psychique ou neuropsychique, et notamment quand le suspect a eu un rôle actif avec la prise de stupéfiants, par exemple. C'est le cas de Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Halimi. Le postulat des partisans d'un changement de la loi, c'est de dire qu'un consommateur de stupéfiants recherche une modification de ses perceptions, qu'il est donc conscient, au moins au départ, qu'il peut ainsi perdre ses moyens et altérer son discernement. Aujourd'hui, la loi ne fait pas de distinction entre les différentes origines des troubles mentaux, que ce soit pathologiques, génétiques ou liés à la consommation de drogue ou de médicaments. Pour le garde des Sceaux, il s'agit d'un vide juridique. Éric Dupond-Moretti aimerait pouvoir tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l'abolition de son discernement.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe.
6h34, retour en classe de la maternelle au primaire pour plus de 6 millions d'élèves. Ce matin, et pour accueillir ce petit monde, un protocole strict, mise en place, aération des salles, courant plein air favorisé, fermeture des classes au premier cas de Covid et surtout les tests.
Quant aux collégiens et lycéens, ils auront cours, eux, à distance, au moins jusqu'au 3 mai. Et beaucoup de parents d'élèves redoutent de nouveaux bugs dans le système informatique de l'éducation nationale. Édouard Geffray, directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation, était l'invité hier de Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Et il a donné quelques conseils pour préparer au mieux cette rentrée à distance.
Ce qu'on peut dire aux parents déjà, c'est de vérifier avant la reprise, et vos enfants, en jeunes, qu'ils ont bien leur code, leur mot de passe, qu'ils sont bien inscrits, etc. C'est tout bête, mais si vous êtes obligé de tout reprendre à zéro, vous sollicitez les outils inutilement, etc. Donc ça, c'est la première chose. On a aussi envoyé des recommandations aux professeurs et aux chefs d'établissement pour bien répartir dans la semaine les classes virtuelles, y compris par rapport au matin, puisqu'on sait que, comme beaucoup de personnes télétravaillent, entre 8h et 9h du matin, par exemple, vous avez un gros afflux. Et là, c'est pas une question d'outils éducation nationale, c'est une question de tuyaux collectifs. C'est-à-dire que si tout le monde se branche sur sa visio entre 8 et 9, ça peut être un peu plus long pour les élèves. Donc on a dit, voilà, répartissez bien dans la journée. Et puis nous, sur la partie technique, on a donc démultiplié nos capacités.
Alors ça, c'est pour l'éducation nationale. Quant aux commerçants et restaurateurs, eux, ils vont plancher, leurs représentants sociaux et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, vont plancher sur des pistes de sortie de crise. On fait le point d'ailleurs sur ces pistes envisagées avec Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Une chose est sûre, confie-t-on au ministère du Travail, rien ne bougera avant la mi-mai, rien avant que l'exécutif n'ait confirmé la réouverture des commerces, des restaurants et des lieux culturels. La première mesure d'allègement concernera le télétravail. L'idée est de passer des 4-5 jours de télétravail par semaine actuelle à 3, voire 2. Tout cela se fera progressivement, précise-t-on dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Autre mesure d'assouplissement sur la table, les règles de distanciation dans les restaurants d'entreprise. Mi-mai, il sera à nouveau possible de déjeuner avec un ou plusieurs collègues, tout en respectant un certain nombre de gestes barrières. Et enfin, les moments de convivialité, comme les pots de départ, seront à nouveau autorisés. Là encore, ils feront l'objet d'un protocole sanitaire précis. En revanche, pas question de faire le distinguo entre les salariés vaccinés et les autres. Les règles seront les mêmes pour tous. Et l'entourage de la ministre de préciser que ce n'est pas demain qu'on risque d'enlever le masque en entreprise.
Les précisions signées Maud Descamps.
Un triple cocorico aux Oscars cette nuit. L'auteur Florian Zeller, nouvelle coqueluche d'Hollywood, a remporté le prix du meilleur scénario pour son film The Father, film tiré de l'une de ses pièces.
Et autre production française primée, le documentaire Colette, qui raconte l'histoire de Colette Martin-Catherine, 93 ans, qui retourne sur les lieux de la mort de son frère, déporté en 43. Enfin, Nicolas Becker reçoit l'Oscar du meilleur son décerné pour Sound of Metal.
Enfin, eux aussi auraient mérité l'Oscar du meilleur scénario. En football, les Lillois ont renversé Lyon hier soir, 3-2.
Un succès quasi inespéré qui permet à Lille de reprendre la tête du classement avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Récit de la folle soirée avec Jean-François Pérez.
Un cri de joie comme une finale de Coupe du Monde, des joueurs hystériques sur la pelouse. Lille n'a pourtant remporté qu'un match à Lyon, mais il vaut bien plus que 3 points. L'entraîneur Christophe Galtier s'est même offert une roulade au coup de sifflet final. Heureux, fier et surtout soulagé.
Quand vous êtes mené à la pause et que vous avez le bonheur de l'emporter contre un concurrent direct, il y a beaucoup d'émotions et j'espère que mes joueurs rêvent autant que ce que je rêve.
Le grand artisan de ce succès fou restera le Turc Burak Yılmaz, auteur de 2 buts magnifiques et d'une passe décisive. Adulé dans son pays, inconnu en France l'an passé, il sidère tout le monde à bientôt 36 ans, y compris son capitaine José Font.
J'ai dit à Burak que ce genre de match-là, c'est pour les grands joueurs, c'est pour lui. Il a dit... Ok, tu peux compter sur moi.
Vainqueur d'un match qu'il a failli perdre, Lille ne se cache plus. À 4 journées de la fin, le titre de champion est désormais son objectif, au nez et à la barbe des favoris parisiens. Lyon, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et puis on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Le tirage au sort, c'était hier soir. Le PSG affrontera Montpellier et Rumilly-Vallières, club de 4e division, fera face à Monaco.
Le favori de l'épreuve, hein, presque, pour le petit pousset. Merci beaucoup. C'était le journal de Simon Rubin. Il est 6h38.
Europe 1.
L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Jean-Claude Delgène.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, directeur général du cabinet Technologia, spécialisé dans la prévention des risques liés au travail. Je le disais, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, consulte aujourd'hui les partenaires sociaux pour faire évoluer les règles sur le télétravail à partir de la mi-mai, moment du déconfinement. Quel cadre fixer pour un télétravail qui restera la norme? Comment le rendre vivable dans la durée? Vos réponses à ces questions dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Il est 6h40. La ministre du Travail reçoit donc aujourd'hui les partenaires sociaux pour s'accorder sur les règles concernant le télétravail pour l'après-confinement, l'après-mi-mai. Déjà, Jean-Claude Delgène, il y a peu de doute, le télétravail va rester la norme en France encore pour plusieurs mois.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail est un phénomène social qui a surgi par effraction dans la vie des Français en mars 2020. Après, donc, une période où il y a eu un effet d'apprentissage massif, hein, puisqu'on est passé de 1,7 million à peu près de personnes qui étaient en télétravail à près de 6 millions. On constate qu'il y a eu un très grand engouement. Aujourd'hui, il y a des réflexions, mais ce que l'on sait, c'est que ça va durer, qu'il va y avoir une nouvelle hybridation du travail, c'est-à-dire que on va se partager, il y aura une certaine porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, et ça va durer dans le temps. Donc, il est vraiment important de réfléchir pour éviter de tomber dans les inconvénients du télétravail pour capitaliser sur ses points forts. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Ouais.
Effectivement, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, note des chiffres. On atteint aujourd'hui, selon elle, un niveau assez élevé. Finalement, 78% de télétravail chez les actifs pour lesquels c'est facile de télétravailler. Qu'est-ce qu'il faut renforcer, selon vous, dans l'encadrement aujourd'hui de cette pratique?
Écoutez, déjà, une première chose à dire, c'est que la France avait beaucoup de retard par rapport aux autres pays et les managers n'étaient pas du tout formés pour conduire l'activité à distance. Contrôler une quinzaine de personnes, par exemple, en proximité et les contrôler à distance, c'est pas du tout les mêmes qualités, c'est pas du tout les mêmes aptitudes. Donc, il faut faire ça, il faut faire, œuvre de compréhension, il faut soutenir, il faut faire de l'empathie, etc. Donc,
parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ont dénoncé une certaine forme de flicage, des comptes rendus à envoyer tous les jours, alors qu'on ne vous demandait jamais ça avant de quitter le bureau le soir à 18h.
Voilà, donc il y a la formation qu'il faut renverser. Il faut vraiment réfléchir aussi aux conditions matérielles, hein, faire en sorte que, parce qu'on n'est pas tous à égalité devant le télétravail. Si vous télétravaillez, je dirais, dans une pièce à 3 de 30 ou 60 mètres carrés à Paris, ou si vous êtes au bord de la mer, c'est pas du tout la même chose. Il faut prévoir aussi la réversibilité, c'est-à-dire que on n'est pas forcément tout le temps en télétravail, on peut revenir en présentiel, ça c'est aussi important. Et puis prévoir aussi le coût, parce que aujourd'hui il y a un transfert massif, puisque le télétravail ne donne pas forcément lieu à indemnité. Or, on sait que ça coûte entre 50 euros et 80 euros par mois aux salariés. Est-ce que c'est aux salariés de payer ça? C'est une
question. Les frais d'électricité ou de matériel bureautique. Vous dites aussi, Jean-Claude Delgène, qu'il y a nécessité de mieux encadrer les horaires de travail réels. La frontière, elle devient très poreuse, très difficile à établir quand on est chez soi toute la journée.
Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail a des incidences manifestes sur la santé des salariés. Pourquoi ? Parce que quand vous allez au travail, vous bougez, vous n'êtes pas immobile, vous n'êtes pas, je dirais, toujours chez vous. Donc, il est important de bien comprendre que quand on est en télétravail, on a des risques vasculaires, des risques cardiovasculaires accrus, des risques liés aussi du point de vue de l'utilisation massive des écrans. Et donc, il faut vraiment séquencer la journée, faire en sorte que les gens soient amenés chaque heure à interrompre au moins 10 minutes leur activité, qu'ils bougent, qu'ils fassent un peu de sport. Il faut donc instaurer une discipline rigoureuse si on veut éviter une flambée des maladies cardiovasculaires à terme. Et y compris, il faut un suivi sur le plan ophtalmologique, puisque en fait, il y a une incidence au niveau oculaire.
Un suivi ophtalmologique, un suivi psychologique aussi peut-être. Je vais donner deux chiffres pour qu'on se situe côté salarié. À l'automne dernier, Jean-Claude Delgène, près d'un salarié sur deux se déclarait en détresse psychologique, selon une étude Opinionway. Et 4 salariés sur 10 auraient aujourd'hui une moins bonne image de leur entreprise et de leur métier qu'avant le début de la crise.
Tout à fait, parce que quand vous êtes toujours isolé, loin du collectif, c'est une vraie difficulté. L'individu, toutes les études le montrent, a besoin de se connecter à un collectif. Or, quand on pense le télétravail, on ne pense pas suffisamment au télétravail et travail en présentiel. Il faut organiser le tout pour permettre aux gens de se connecter, de se retrouver. L'individu n'existe que par rapport au collectif. L'accord devra aussi réduire les inégalités, puisque on a vu que les télétravailleurs n'étaient pas traités de la même façon que ceux qui étaient en présentiel. Ils bénéficient moins de promotions, moins d'augmentations.
Ils sont les premiers à partir.
Voilà, et puis ils sont les premiers à partir lorsqu'il y a des charrettes. Donc, vous voyez, donc il faudra véritablement faire preuve d'équité. Sinon, on aura des problèmes.
Vous parlez de l'importance de cet accord, Jean-Claude Delgène. Ça n'avait pas été simple de se mettre autour d'une table pour en parler déjà l'automne dernier. Ça n'avait pas débouché sur grand-chose. Accord qui renvoyait aux branches et aux entreprises pour fixer des règles contraignantes, mais sans qu'elles aient, ces branches et ces entreprises, l'obligation de le faire. C'est un petit peu un rendez-vous manqué. Qu'est-ce qui permet de penser que ce serait différent cette fois-ci ?
Écoutez, on verra. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas, à mon avis, ça sera compliqué parce qu'on a vu la difficulté qu'il y avait à la fin de l'année dernière de trouver, je dirais, des voies de compromis. Or, moi, je pense qu'il est bien d'avoir une double acceptation tant des représentants des salariés que de l'employeur pour favoriser un télétravail qui ne soit pas nocif, y compris pour la société qui emploie. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en télétravail, vous avez aussi une perte de créativité à long terme. On sait qu'il y a une meilleure productivité à court terme. On sait aujourd'hui, on le voit avec le retournement, par exemple, tous les pays aujourd'hui commencent à dire attention, il faut revenir au bureau. Pourquoi ? Parce qu'on a une perte en ligne très importante en termes de créativité, en termes de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire la création de valeur qui est liée à l'improbable, à l'impromptu qui surgit dans nos vies. Donc,
et aux échanges. Vous avez parlé des risques, on a parlé des risques liés au télétravail pour le salarié, il y en a aussi pour l'entreprise. Vous parlez notamment, outre cette perte de créativité à long terme, d'un risque accru de délocalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, en fait, si vous voulez, ce que l'on voit, c'est que la France a subi à la fin des années 70 une vague énorme de délocalisation industrielle. L'effet d'apprentissage massif que nous avons connu depuis maintenant un an fait qu'un grand nombre d'employeurs connaissent et savent pouvoir délocaliser l'activité dans les services. Par exemple, dans les pays du Maghreb ou dans d'autres pays où on parle français comme l'île Maurice, etc. Donc, il faudrait faire attention. Nous, on constate, Technologia constate à sa mesure qu'il y a un début de transfert d'activité parce que c'est très simple de délocaliser à Tunis, à Alger, des activités qui étaient faites auparavant à Lyon ou à Paris. Et donc, la seule chose, c'est qu'il y a un différentiel pour l'employeur il joue sur le différentiel de salaire. Mais si on a un effet de délocalisation massif maintenant, il n'y aura plus de télétravail parce qu'il n'y aura plus d'emploi, tout simplement.
Bien sûr.
Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention.
Ouais. Très rapidement pour terminer, on va se parler franchement de ce que vous avez l'air de ressentir. On ne va pas vers un accord contraignant qui encadre effectivement et efficacement le télétravail entre partenaires sociaux cet après-midi au ministère du Travail, selon vous ?
Bah, écoutez, ça va être compliqué. Ça va dépendre aussi de l'insistance de la part du ministre du Travail, hein, qui aujourd'hui peut aussi quelque part légiférer. Par exemple, comme je vous le disais, sur le niveau, on peut très bien considérer que 2 jours de télétravail soit le maximum quand on sera revenu à peu près à une activité normale. On peut considérer qu'il doit y avoir une équité de traitement. On peut considérer qu'il doit y avoir une réversibilité. On peut considérer aussi qu'il doit y avoir une préservation de l'emploi, c'est-à-dire que L'emploi doit être garanti par ailleurs. On peut prendre des mesures d'ordre réglementaire qui s'imposent aux acteurs si ces acteurs sont incapables de se mettre d'accord.
Eh bien, on verra si Elisabeth Borne, effectivement, force la main à la ministre du Travail, aux syndicats et aux patronats qui doivent se retrouver par visioconférence pour discuter d'un cadre mieux défini au télétravail aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Claude Delgène.
Merci à vous.
Directeur général du cabinet Technologia d'avoir été notre invité ce matin à distance. Vous aussi, c'est une forme de télétravail en somme. Merci,
merci
beaucoup, bonne journée.
Au revoir. Europe 1.
6h49, l'innovation du jour en présentiel avec Anissé Mbida dans ce studio arrive à tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
7h10, place à l'innovation du jour avec Anissé Mbida comme chaque matin. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo Manval.
Et votre innovation tombe à point nommé avec la rentrée aujourd'hui pour les maternelles et les écoles primaires. Pour ceux qui aimeraient accompagner leurs enfants à vélo, il existe désormais une remorque à assistance électrique dans laquelle on met les enfants et qui se fait totalement oublier quand on pédale.
Oui, une remorque électrique intelligente on va dire, puisqu'elle va compenser tous les efforts nécessaires pour la tracter. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu à tirer une remorque.
C'est particulier.
À vélo, ça serait que c'est particulier. Non seulement l'équilibre et le comportement changent, mais en plus, il faut redoubler d'efforts, même quand le vélo est électrique. Eh bien, cette remorque, elle va s'appuyer sur des capteurs pour mesurer l'effort nécessaire pour la tirer et ensuite ajuster l'assistance électrique en conséquence. En plus, elle est très étroite, ce qui permet de doubler sans problème sur les pistes cyclables. Et comme on peut y installer deux sièges vélo enfant, eh bien, on ne les sentira même plus quand on les accompagne à l'école.
Et elle s'adapte sur n'importe quel vélo ?
Oui, qu'il soit électrique ou normal, s'accroche et se décroche sous la selle là, directement en quelques secondes. Donc on peut la partager facilement entre parents ou entre voisins, ce qui peut être très pratique parce que quand on enlève les sièges enfants, on aura bien plus de place pour ses courses qu'un panier ou une sacoche. La remorque s'appelle la Biomega Ein. Elle est conçue par une start-up danoise et elle est typique d'une tendance à la multiplication des accessoires pour vélo. On en a déjà parlé ici même, des kits anti-pluie, tous ces systèmes anti-vol. Maintenant, on trouve aussi des vêtements chics spécialement conçus pour les cyclistes. Par exemple, des vestes avec des petits zips sous les bras pour s'aérer ou des pantalons à pinces très chics mais avec un petit soufflet à l'entrejambe pour être beaucoup plus à l'aise. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'innovation autour du vélo.
Merci beaucoup Anissé Mbida. L'innovation du jour en pédalant. À demain. 6h52, ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence en Angleterre, à Londres avec vous Anaïs Cordoba. Bonjour.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
Eh bien, un sujet domine dans la presse britannique. Boris Johnson, incriminé par son ancien bras droit, Dominic Cummings, il l'accuse d'avoir tenté de faire financer des travaux de son appartement par des donateurs privés du Parti conservateur. Toute la presse reprend les termes de l'ex-conseiller qui juge le projet contraire à l'éthique, stupide et peut-être illégal. Selon le Times, les travaux ont été réalisés par une décoratrice d'intérieur à la mode et ont largement dépassé les 35 000 euros de subventions annuelles allouées au Premier ministre pour l'entretien de leur maison. Interviewée par Sky News, une ministre de Boris Johnson a pris sa défense et assuré qu'il s'est acquitté seul du montant de la rénovation. Le Parti travailliste appelle à l'ouverture d'une enquête, titre le Guardian, qui révèle que les avocats du Labour ont envoyé une lettre formelle à la commission électorale.
Anaïs Cordoba, correspondante Europe 1 à Londres, direction l'Inde, à présent où l'on retrouve Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Théo.
On a vu les cas de Covid exploser vraiment ces derniers jours. Qu'est-ce qui occupe les journaux en Inde ?
La communauté internationale qui se réveille face à la catastrophe en Inde. Le pays a enregistré hier plus de 350 000 cas et 2 800 morts, annonce le Time of India. Un bilan aggravé par la saturation totale des hôpitaux. L'oxygène manque particulièrement, des patients meurent faute d'y avoir accès. La France s'est justement engagée à expédier une quantité considérable de respirateurs dans les prochains jours, rapporte NDTV. L'Union européenne et le Royaume-Uni annoncent aussi des aides. Et puis les USA réagissent enfin. L'Inde nous a envoyé de l'aide quand nos hôpitaux étaient sous tension. Nous sommes déterminés à l'aider en retour, a déclaré Joe Biden. Le président avait d'abord répondu les Américains d'abord aux demandes de vaccins de l'Inde, ce qui avait choqué le pays. Même l'ennemi pakistanais va envoyer des ambulances, du personnel et du matériel, selon The Indian Express.
Merci, Com Bastin, en ligne d'Inde pour Europe 1. Dernière escale maintenant en Italie, avec vous, Blandine Hugonnet, bonjour.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait les grands titres à Rome ?
Eh bien ici, on parle du plan de relance censé sauver l'économie italienne après la crise sanitaire. Selon la presse, c'est une copie de plus de 300 pages que Mario Draghi doit rendre à l'Union européenne avant la fin de la semaine. Le président du Conseil qualifie ce plan d'historique, rapporte le Tempo. Et pour cause, Rome recevra près de 200 milliards d'euros. C'est la plus grosse somme allouée par Bruxelles à un pays membre, rappelle la Stampa. Et pour la dépenser, 6 missions ont été définies, détaille Il Sole. Développer le numérique, relancer les gros chantiers à l'arrêt, investir sur les jeunes, l'emploi des femmes, la santé et surtout sur la transition écologique. Le défi de Draghi, moderniser l'Italie, écrit la G. Mais le pays respectera-t-il ses engagements? L'Europe se pose la question, s'inquiète la Repubblica. Je m'en porte garant, répond l'ancien banquier. Mais selon le Corriere, il a tout de même fallu que Mario Draghi décroche son téléphone pour convaincre directement la présidente de la Commission européenne. D'après la Nazione, ce plan économique va enfin révéler le réel poids du Super Mario italien en Europe.
Blandine Hugonnet, correspondante Europe 1 en Italie. Votre fenêtre sur le monde avec les correspondants d'Europe 1, c'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
6h56, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes et Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. A tout de suite.